Voilà, je crois qu'il est temps que je laisse la parole à mes collègues pour leur présentation. Je vais d'abord vous présenter ma première invitée, Cecilia Garcia Penaloza, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est désormais aussi directrice d'études à l'EHESS, où elle occupera la chaire Genre, Croissance et Développement. Elle est membre du GRECAM au sein de l'École d'économie d'Aix-Marseille. Ses recherches portent principalement sur la croissance à long terme, et en particulier sur le rapport entre croissance et inégalité de revenus, sur les institutions politiques et économiques impliquées dans les processus de croissance, sur les relations entre croissance et redistribution, et sur les inégalités entre hommes et femmes dans le développement, la croissance et les marchés du travail. Sur ces différents sujets, elle a publié beaucoup dans les grandes revues internationales de sa discipline, et elle a par exemple aussi co-dirigé un livre paru chez MIT Press en 2006, « Institutions, développement et croissance économique ». Institutions, Development and Economic Growth. Je lui donne la parole. Merci.
Bonjour et merci pour l'invitation. Je vais faire une présentation qui est basée en grande partie sur une note que j'ai coécrite avec Étienne Vasmer de Sciences Po pour le Conseil d'analyse économique. La note originale s'est focalisée beaucoup sur la France, vu le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous donner une vision beaucoup plus internationale des problèmes. Je vais commencer, suite à cette introduction qu'on a eue, pour discuter un tout petit peu ce qu'est les talents chez nous, chez les économistes. Donc la notion des talents, qui était initialement réservée au monde des arts et des sciences, a été progressivement appliquée à des autres aspects, en particulier au monde de l'entreprise. Mais pour les économistes, ce qui est fondamental, ce n'est pas tant les champs d'application de cette idée, mais le fait qu'ils portent sur des questions. Une, c'est la rareté des ressources et le fait que les talents, nous, on les définit comme quelque chose qui est rare dans la société. Et d'un autre côté, on explore l'idée que les talents vont augmenter les capacités de production d'une société. Et ces capacités peuvent affecter la production à court terme ou à long terme avec des implications différentes. Et donc, en économie, on a tendance à utiliser le terme talent comme étant équivalent de capital humain. Cette idée de capital est importante pour nous parce que, contrairement à la langue anglaise, quand on parle des talents en français, on a la notion d'investissement, d'éducation aussi. En anglais, talent est généralement vu comme quelque chose avec laquelle on est, une habileté naturelle. Aujourd'hui, je vais me concentrer en grande partie sur ces parties du talent qu'on peut bien mesurer et qui va être fortement liée à l'éducation. Et donc, je veux parler des individus high skill ou des brain, des cerveaux et de leur mobilité. C'est important aussi pour nous économistes, cette idée que le talent est lié à l'individu. Et donc, contrairement à des autres facteurs de production, notamment le capital physique, ce n'est pas quelque chose qui peut se transférer, mais est nécessairement lié à une personne physique. La notion est liée en partie à l'argent, mais pas toujours. On a déjà entendu dire qu'il y a la question de la rémunération du talent. Et c'est vrai que beaucoup des questions qu'on se pose en économie sont par rapport à ces rémunérations, mais je voudrais avoir une vision un peu plus large parce que beaucoup des individus talentueux qui vont contribuer à la productivité ne seront pas rémunérés au niveau de leur contribution à long terme. Je pense, par exemple, à la recherche fondamentale où on va voir des individus avec une importante contribution à la croissance de long terme, même sans être capable de capturer le rendement de la recherche tout de suite. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'en économie, on identifie ces individus à haut niveau d'éducation, de skills, qui ont un impact sur la croissance aujourd'hui, mais aussi sur la croissance future d'une façon un peu plus tentative, un peu plus difficile à mesurer. Les enjeux du débat sont importants. Ils sont importants parce que le monde a changé d'une façon fondamentale. On vient d'écouter un exemple sur les modes de production d'il y a quelques décennies et ceux d'aujourd'hui. Je dirais que la période 1850-1970 a été le siècle du capital physique. A été une période où le monde a vu une croissance énorme qui a été créée en grande partie par l'accumulation de capital physique, par l'équipement, par les machines. Depuis les années 80, cette forme de croissance a changé et nous sommes dans ce qu'on peut appeler le siècle du capital humain. La dématérialisation de l'économie a créé une demande pour certains types de travailleurs qui sont différents d'une grande partie des individus qui sont dans les marchés de travail, et ça donne une importance croissante aux capacités individuelles. En même temps, on vit dans une situation où le changement technologique s'est accéléré par rapport à tout autre moment de l'histoire. Et ça aussi demande quelque chose de particulier. Ça exige que les individus aient la capacité de changer, de s'adapter, d'apprendre ces nouvelles technologies qui arrivent. Et ce sont des capacités fortement liées à l'éducation et au talent. Donc, cette évolution a été accompagnée par un changement fondamental par rapport à la taille du monde dans lequel on vit. Les communications se sont facilitées, les déplacements physiques se sont facilités, et donc la vision que nous économistes on a eue pendant une grande partie du XXe siècle, qui disait que le capital physique était mobile, mais le travail était le facteur fixe associé à un pays, à un lieu particulier, a complètement changé. Le travail, et en particulier le travail qualifié, est devenu mobile aujourd'hui. Et à cause de ça, on parle d'une guerre des talents. Cette idée que les nations, pour réussir, ont besoin d'avoir ces talents, ces capacités productives, et que les individus qui les possèdent sont devenus mobiles, et pour le temps, différentes nations peuvent essayer de les attirer. Donc, ce que je voudrais faire est vous donner quelques chiffres sur la mobilité internationale des talents aujourd'hui, parler des causes et des conséquences de cette mobilité et passer un petit peu de temps sur un cas particulier, la situation aujourd'hui en Europe par rapport aux talents et en particulier par rapport au monde académique. Donc, quelques chiffres un peu généraux. Là, on a quelques tendances depuis 1975 de l'émigration qualifiée. On voit que dans certaines parties du monde, elle a augmenté très considérablement, moins dans d'autres. Il y a des cas assez importants comme celui de l'Amérique centrale. Mais cette émigration des talents est devenue particulièrement importante dans les pays riches. Et ça, c'est un phénomène nouveau, même s'il y a eu des périodes dans l'histoire où l'émigration des individus qualifiés a été forte. Je pense qu'on va écouter quelque chose sur ça cet après-midi. Et avec ces graphiques, je voulais un peu mettre en perspective les différentes expériences nationales. Il y a des pays qui ont une culture d'émigration des talents beaucoup plus forts que des autres. En France, on parle beaucoup de la fuite des talents. On voit que depuis les années 80, l'augmentation a été considérable, mais elle reste quand même assez faible. Elle a passé de 1% de la population qualifiée, avec un diplôme de supérieur, à 2%. Elle a doublé, effectivement, mais elle reste beaucoup plus bas que ce qu'on voit dans les Royaumes-Unis, par exemple, ou dans les Pays-Bas. Un autre fait que je voudrais souligner, même si je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, est que la mobilité des talents ne touche pas de la même façon tous les individus. Et il y a une dimension qui est à mon avis intéressante, qui est les différences entre hommes et femmes. Ce que j'ai ici, c'est les taux d'émigration des diplômés du supérieur selon les types des pays d'origine et par sexe. Et donc, on voit que si bien dans les pays à haut revenu, les hommes et les femmes ont des taux d'émigration assez proches, dans le reste du monde, ce n'est pas le cas. Et donc, l'émigration des talents est un phénomène assez masculinisé et on doit se poser des questions sur les implications que ça peut avoir sur l'économie locale, mais aussi sur les pays d'accueil. Pourquoi est-ce que ces individus bougent autant aujourd'hui? Comme je disais avant, les économistes ont pendant longtemps vu le travail comme les facteurs amobiles. Et les théories qu'il y en avait disaient que le capital physique est complémentaire au facteur travail et donc il va se déplacer pour aller dans les lieux où il y a une main-d'œuvre adéquate. Quand je vais dire adéquate, ça peut être du travail bon marché avec des bas salaires pour certains types de biens ou des travails très qualifiés quand on veut produire des biens qui ont une nécessité de ce type de travail. Donc, si le capital physique suit le travail, pourquoi se déplace le capital humain? Je vais vous montrer les résultats qu'on a dans la littérature empirique, mais les approches théoriques parlent de plus en plus des complémentarités des capitaux humains. Et quand on se demande avec quoi est complémentaire les talents, la réponse est en général avec les talents. Et donc, cette littérature un peu récente en économie commence à s'orienter vers la géographie, vers l'urbanisme. Et ce qu'on trouve là est qu'il y a une interaction fondamentale entre les individus pour la création des savoirs, pour la création artistique, scientifique. Et donc, beaucoup des facteurs que nous, on a traditionnellement considérés comme fondamentaux pour expliquer la mobilité des facteurs, ne le sont plus. Et maintenant, on parle des facteurs géographiques, de la taille des villes, de l'urbanisme, de la création des centres de savoir. Bien sûr, Silicon Valley, c'est lui qui nous vient en tête très rapidement. Et ça, ce sont des nouvelles questions qui commencent petit à petit à s'intégrer dans l'analyse économique. Donc, il y a une longue série de travaux empiriques qui ont essayé d'examiner quels sont les facteurs qui pousse à la mobilité du talent. On parle dans cette littérature des facteurs push et des facteurs pull, de ce qui pousse les gens à partir et ce qui attire les individus. Et donc, on peut en général conclure de cette littérature qu'en général, ces facteurs push sont plus faibles que les facteurs d'attractivité, même, et je vais vous donner un exemple, si ce n'est pas toujours le cas. Il y a des grands groupes de pays qui, en général, sont séparés dans la littérature, les pays à bas revenus et les pays à haut revenus, parce que les mécanismes qu'on y trouve sont assez différents. Donc, dans les pays à bas revenus, on voit que l'immigration est assez sensible à la distance. Clairement, il y a des contraintes budgétaires pour beaucoup d'individus, et donc la distance entre les pays d'origine et les pays d'accueil est un facteur assez important qui va déterminer la migration. Mais il y a des facteurs push qui peuvent être importants. Un aspect qui ressort régulièrement dans les données, c'est la fractionnalisation religieuse. Qu'est-ce que je vais dire par fractionnalisation? Je ne suis pas sûre que ce soit un mot français, mais c'est cette idée que dans un pays, on peut avoir des différentes religions, des différentes langues, des différentes ethnies, et donc on va mesurer la diversité dans un de ces aspects. On a parlé en économie beaucoup de comment cette diversité peut être importante pour la croissance. Et quand on regarde les migrations, ce qu'on trouve est que la diversité religieuse est un facteur très important et qui a un effet très positif sur les taux de migration. Donc les pays où il y a ces divisions par rapport aux différentes identités religieuses ont tendance à être des pays avec une forte immigration des plus qualifiés. Dans les facteurs push aussi, le niveau de développement du pays est bien sûr important aussi. Même dans ces groupes de pays à revenus bas ou modérés, plus pauvres est le pays, plus d'immigration des qualifiés on va trouver. Mais on trouve que les décisions de ces individus sont affectées par la géographie, par la distance, comme je disais avant, mais aussi par la culture. Et donc, les pôles d'attraction sont en grande partie liés à la proximité culturelle et à l'histoire commune. commune. Et donc, à la colonisation, au partage d'une langue, bien sûr, ce qui n'est pas très surprenant par rapport aux capacités que les individus vont avoir de s'intégrer dans les pays d'accueil. Mais aussi, il y a des similitudes culturelles et religieuses qui vont affecter ces décisions. Et donc, on a des exemples en France, mais aussi en Espagne, avec la proximité de l'Amérique latine, ce qui n'est pas très surprenant, mais aussi une forte migration qui vient des Philippines, un pays qui a été espagnol, qui ne l'est pas depuis très longtemps, où les gens ne parlent plus la langue, mais où il y a une histoire commune qui va créer ces liens qui vont favoriser l'émigration. Du côté des pays à haut revenu, l'histoire est assez différente. L'émigration est très peu sensible à la distance. Ce sont des individus qualifiés qui ont été éduqués dans un pays riche, donc les contraintes budgétaires ne semblent pas être très importantes, et le niveau de revenus du pays d'origine n'a pas beaucoup d'implications non plus pour les taux d'émigration. Par contre, la taille de la population est fondamentale. Les individus qualifiés qui sont d'origine d'un pays petit ont beaucoup plus tendance à partir ailleurs et ont tendance à partir dans les grands pays. Et ça revient à l'idée que j'évoquais avant de l'importance de la géographie et l'importance des les interactions entre talents. Un pays petit est un pays où il y a moins d'individus qui vont avoir les mêmes approches que moi, qui vont se poser les mêmes questions, et donc je vais vouloir partir ailleurs. Et on trouve, je vous avais montré quelques données avant, mais on trouve les résultats surprenants que des pays très riches comme les Pays-Bas ou la Suède ont des taux d'immigration qualifiés assez considérables. Les données semblent nous indiquer que ces individus partent pas parce qu'ils cherchent un salaire plus élevé, pas parce qu'ils cherchent des conditions de travail plus généreuses, mais surtout parce qu'ils cherchent un réseau. Ils cherchent de s'intégrer dans une communauté où les talents trouvent ces talents complémentaires, duquel j'ai parlé avant. Et bon, le dernier point, c'est le niveau de revenus. Et un aspect que je trouve intéressant dans ces résultats est que le niveau des salaires dans les pays d'accueil est important pour attirer les talents, mais aussi les inégalités. Pourquoi ? Parce que les inégalités salariales veulent dire que mon salaire comme chercheur est élevé, mais les salaires de ceux qui vont donner tous les supports au système de recherche sont bas. Et donc, je vais pouvoir embaucher plus de techniciens, plus de travail non qualifié pour créer une équipe. Et donc, on trouve cette implication clairement dans les données que les pays où ce qu'on appelle les skill premium, donc la prime des salaires pour être qualifié est très élevée, vont être des pays qui attirent fortement les talents. Je vais passer quelques instants sur la fiscalité. Donc la fiscalité, c'est quelque chose qui apparaît régulièrement dans la presse populaire comme un facteur fondamental pour la mobilité des talents. Quand on regarde les données avec un peu plus de soin et pas se focaliser sur un individu connu, l'impact de la fiscalité est assez modéré. C'est un facteur, mais ce n'est pas le facteur qui détermine la mobilité. Et donc, clairement, les choix sont pris par rapport à tout un ensemble d'aspects, de conditions de travail, et pas seulement sur la base d'une fiscalité plus élevée ou plus faible. Quelles conséquences a cette mobilité ? On a, à la fin, donc, dans les années 90, quand la mobilité qualifiée, surtout des individus qui venaient des pays pauvres, a augmenté considérablement, il y a eu beaucoup de discussions sur l'impact négatif de cette fuite des cerveaux et sur l'idée que les talents est en train de partir, la main-d'œuvre qualifiée d'un pays va disparaître et donc les niveaux de production et les taux de croissance vont nécessairement être plus faibles. Cette fuite des talents va induire une pénurie professionnelle dans certains secteurs et donc on va faire ralentir certains secteurs. Il y a eu pas mal de discussions sur l'effet contraire, l'idée que peut-être la fuite des talents permet une augmentation des investissements en éducation. J'habite dans un pays pauvre avec peu d'opportunités, Mexique. Si je peux partir aux États-Unis, ça va augmenter les incitations que j'ai à m'éduquer parce que je peux espérer avoir un salaire plus élevé dans les pays de destination. Ce n'est pas clair que ces mécanismes soient en fonctionnement, donc l'évidence que j'ai vue sur ça est quand même assez faible et il y a plutôt un effet négatif de ces côtés. Cette pénurie aussi a une deuxième implication sur les salaires et sur les inégalités. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une rareté des travailleurs qualifiés dans les secteurs les plus productifs, et donc ces individus vont avoir la capacité d'extraire une partie plus importante de la production totale, ce qui va augmenter les salaires, peut-être réduire ceux des individus non qualifiés et créer un écart salarial plus important entre ceux qui ont eu une éducation et ceux qui ne l'ont pas eu. Est-ce qu'il y a des effets positifs de la mobilité ? La réponse est oui, et il y a plusieurs raisons. D'abord, l'émigration a un effet positif sur l'individu, sur son salaire dans les pays d'accueil, mais on le voit aussi dans les données, sur son salaire quand il revient au pays d'origine. Donc, les individus qui ont passé du temps ailleurs sont des individus qui deviennent plus productifs, qui vont amener avec eux des nouvelles capacités et qui vont avoir une carrière professionnelle plus intéressante et des salaires de rémunération plus élevés. La migration a aussi eu un effet important sur l'innovation et les brevets. En général, on trouve que les immigrants qualifiés sont celui les plus talentueux dans la distribution des capacités de leur pays d'origine. Et donc, ça amène souvent une amélioration des compétences dans les pays d'accueil. Et on voit clairement dans les données que les régions, les pays, les secteurs avec plus d'immigration qualifiée vont avoir plus d'innovation, plus de brevets. Une partie des effets positifs semble venir d'une complémentarité entre les travailleurs natifs et les immigrés. Et ça explote un peu des idées qu'on a en économie de la croissance sur l'importance de la diversité. Et comment la diversité peut améliorer l'efficacité, les capacités des productions. Et donc, quand on se focalise sur la migration, ce qu'on trouve est qu'il y a un impact positif de l'arrivée de ces migrants dans un secteur sur les opportunités d'emploi et les salaires des travailleurs natifs dans ces secteurs. Donc, c'est un effet assez fort, pour les pays riches, et donc qui indique que cette complémentarité est présente. L'immigration a aussi un effet très considérable sur le commerce international. Et c'est un effet qui va dans les deux sens, pays d'accueil et pays d'origine aussi. Les migrants entretiennent des réseaux, créent des liens, et tout ça va augmenter les flux commerciaux d'une façon très considérable. Les échanges des personnes, donc, vont influencer les importations, mais aussi les exportations. Et on voit que ce type de réseaux ont des effets très positifs, mais aussi très permanents. Même quand un individu revient dans son pays d'origine, les liens qui ont été créés vont permettre la continuité de ces hausses de flux commerciaux. Il y a néanmoins un point négatif par rapport à la migration, et ce sont les risques budgétaires. Donc, les migrants qualifiés sont en général des individus entre 25 et 45 ans qui sont dans la partie la plus productive de leur carrière et qui, vu leur haute productivité à cet âge et leur haute productivité à cause de leur qualification, contribuent énormément au système fiscal du pays dans lequel ils travaillent. Donc, perdre ces individus implique une perte de recettes fiscales potentielles qui ne sont pas récupérées nécessairement par les retours, parce que généralement, on trouve que beaucoup de retours se font plus tard dans la vie, quand les individus sont proches de la retraite et donc leur contribution au système fiscal va être plus faible. Il y a des problèmes associés à ça. Il y a un souci d'équité, je pense qu'il y aura plus de discussions sur ça cet après-midi, parce que dans des pays comme la France, l'État va financer l'éducation des individus pendant une très longue période, et après, ces individus vont partir ailleurs et contribuer au système d'autres pays. Mais il y a aussi un souci plus général dû à la concurrence fiscale. Pourquoi ? Parce que moi, État français, je vais investir dans des individus et je ne vais pas récupérer, je ne vais pas avoir un bon rendement à cet investissement car ils vont partir ailleurs. Donc, quelles sont mes incitations ? Bon, je vais réduire mes dépenses d'éducation et espérer que les Espagnols viennent travailler en France une fois ils ont été éduqués ailleurs. L'Espagne va faire la même chose, l'Allemagne et les Pays-Bas aussi, parce qu'ils disent « je vais mes nationaux vont partir et je vais essayer d'attirer ceux qui ont été éduqués ailleurs ». Et donc, tous les différents pays vont se trouver dans une concurrence vers les bas dans les systèmes éducatifs qui va leur pousser à investir de moins en moins dans l'éducation. C'est quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qui risque de se mettre en place si on continue avec cette formabilité qu'on voit aujourd'hui. Je vais passer les dernières minutes sur la compétition internationale des talents en Europe et comment ça s'est développé ces dernières années. Je vous donne ici quelques chiffres sur la fuite des talents scientifiques des Européens vers les États-Unis. Donc, ce qu'on a, c'est les diplômés du supérieur et donc la proportion de cette catégorie qui part de chacun des pays que j'ai mis là vers les États-Unis, les doctorants et les chercheurs. Donc, vous voyez déjà les mêmes différences qu'on avait avant. Les Royaumes-Unis ont une migration très importante à tous les niveaux, avec presque 30% de chercheurs qui partent vers les États-Unis. La France est un cas modéré, seulement 30% des diplômés des supérieurs. Et je n'ai pas mis la date. Ça, c'est pour 98, si je ne me trompe pas. Et une proportion de presque 8% des chercheurs qui partent. Mais donc, ce sont des flux importants, quand même, qui indiquent qu'il y a ces départs vers celui qu'aujourd'hui on considère un des pays les plus attractifs pour les scientifiques. Donc, on a du retard par rapport aux États-Unis en termes d'attirer des talents. Et bon, on avait quelques chiffres avant. Donc, un des 1000, les calculs que j'ai vus estiment que 120 000 travailleurs qualifiés sont partis vers le reste du monde et une grande majorité vers les États-Unis, suivis de la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. L'Europe était l'un déficit. Alors, donc il y a cette perte considérable vers les pays anglo-saxons, due en partie à des avantages financiers, mais aussi à l'importance des réseaux scientifiques, duquel je parlais avant. Mais le déficit est faible parce que les arrivées d'autres pays développés compensent la migration. La question qui se pose alors est-ce que ceux qui arrivent sont de la même qualité scientifique que ceux qui partent? Donc, c'est une question assez difficile à répondre. Mais ce que je vous donne ici, j'espère que c'est lisible, c'est une mesure de la visibilité de ce qui arrive et ce qui part. Donc, ce sont des données qui se basent sur les publications scientifiques et le nombre de citations. Là, dans l'axe horizontal, on a la qualité des scientifiques qui arrivent, et ici, on a la qualité des scientifiques qui partent. Et donc, quand on est sur la ligne des 45 degrés, on a une égalité entre les deux. Ceux qui arrivent sont si bons que ceux qui partent. Le cas de la France, qui est ce point-là, est pile sur la ligne des 45 degrés. Les départs sont compensés par les arrivées. Les États-Unis, ici, et le Royaume-Uni, là, sont dans une situation où ceux qui arrivent sont meilleurs que ceux qui partent. Et ici, on a des pays, notamment l'Italie, qui ont une perte très considérable des talents. La Grèce est là. Donc, il y a une perte vers le monde anglo-saxon par la qualité. Ce n'est pas le cas de la France, d'après cette mesure basée sur les citations. Pourquoi alors on voit cette perte de talent par rapport à beaucoup de pays? Bon. Une partie du problème est que les pays européens ont eu un très faible taux de retour des travailleurs, des scientifiques qualifiés. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Une des points mis en évidence a été le faible financement de la recherche universitaire dans beaucoup de pays européens. Mais l'autre aspect est les faibles investissements en R&D par les pays européens. Et donc là, on peut se poser la question de la causalité. Est-ce que les bons scientifiques partent et donc on a paix des recherches, ou est-ce que c'est le contraire? Et les études semblent mettre en évidence une causalité qui va de l'investissement vers les départs. Pourquoi? Parce que l'absence de recherche, soit l'absence de financement pour la recherche fondamentale dans le monde universitaire et l'absence de financement pour la recherche appliquée dans le monde de l'entreprise, crée une faible demande. Et c'est cette faible demande pour les travailleurs très qualifiés qui va pousser ces individus à partir ailleurs dans des pays où la demande est plus forte. Et on a une série d'études sur des gros changements des financements en recherche mis en place par certains pays, notamment dans le nord de l'Europe, qui montrent qu'il y a une forte augmentation du financement de la recherche a eu un impact considérable sur la migration. Donc, je reviens, c'est le cas des pays nordiques qui, comme je disais avant, ont été très affectés par leur petite taille, qui ont vu un flux d'émigrants assez considérable à la fin des années 90, début des années 2000, et qui ont en partie arrêté ces flux par une dynamique de recherche beaucoup plus généreuse. Bon, je vais conclure rapidement pour avoir un peu de temps pour la discussion. Donc, en économie, quand on parle des talents, on a tendance à parler des capitaux humains avec cette idée qu'il y a des capacités nées, qui sont bien sûr importantes, mais aussi un aspect considérable qui est le résultat des investissements en éducation pour créer ces talents productifs. La conclusion générale, la vision assez généralisée aujourd'hui est que la mobilité est souhaitable. La mobilité est souhaitable pour l'individu et elle est souhaitable pour les nations parce qu'elle crée une diversité, elle crée une recherche, une richesse d'expérience, elle crée des interactions entre les différents types de talents et donc, ça va augmenter, comme je disais, les flux commerciaux, la productivité, l'innovation. Donc, un pays ne perd pas nécessairement ceux qui travaillent à l'étranger, mais c'est important dans le monde aujourd'hui d'être conscient qu'il faut attirer des talents plus qu'essayer de lutter contre la mobilité. La clé semble être quelque chose d'assez large, c'est pas, comme je disais avant, simplement une question de la fiscalité. La fiscalité est un élément, mais les conditions de vie, d'entrepreneuriat, de travail sont toutes ensemble des facteurs importants. Je suis économiste et je vais finir donc avec les enjeux fiscaux. C'est une question importante et c'est très important pour un pays comme la France, avec une protection sociale forte. Les systèmes français, comme les systèmes d'autres pays avec une protection sociale forte, est difficilement compatible avec un monde à grande mobilité. La gratuité de l'école, surtout des études supérieures, la couverture des santé, la retraite telle qu'elle existe aujourd'hui, pose des problèmes, soit du point de vue des financements, qu'on peut revenir à ça, du point de vue de l'attractivité pour les individus. Est-ce que ça veut dire que la mobilité internationale croissante n'est pas compatible avec un état de bien-être large? Non, je ne pense pas que ce soit le cas, mais il faut réfléchir aux réformes possibles. Et il me semble qu'il y a des aspects qui sont fondamentaux dans ce monde changeant. D'un côté, la transparence, la lisibilité du système social, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, et d'un autre, la coordination internationale. On vit dans un monde globalisé et donc de plus en plus de nos politiques devront être globalisées et il faut réfléchir à comment on peut favoriser cette mobilité sans mettre en danger cette protection sociale. Merci beaucoup.